Les gendarmes font face à une hostilité extrême, affirme Yves Dupas, le procureur de la République, qui a apporté des précisions après la mort d'un émeutier à Thiot hier matin. Des prières pour la paix. Cette année, les célébrations de l'Assomption ont été particulières en raison de la crise insurrectionnelle. Pas de pèlerinage, mais tout de même une grande ferveur. Emmanuel Macron salue, lui, la mémoire de nos héros. Ce sont ses mots. Il a réaffirmé lors d'une cérémonie la reconnaissance indéfectible de la France aux soldats alliés qui ont débarqué dans le Var en 1944. L'actualité internationale et la trêve dans la bande de Gaza en discussion. Des négociations sont en cours à Doha à l'appel des médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte. Le sport avec Demi Vollering. Cette question, a-t-elle perdu le Tour de France? La Néerlandaise qui domine le cyclisme féminin a chuté lourdement cette nuit. La Polonaise Katarzyna Niewiadoma s'empare du maillot jaune. La météo en Nouvelle-Calédonie, sur l'est et l'extrême sud, les nuages sont nombreux et quelques averses sont possibles. Le beau temps se maintient sur l'ouest et la pointe nord. Les températures sont en légère hausse et supérieures aux valeurs de saison, allant de 25 degrés à l'île des Pins jusqu'à 28-29 degrés sur la côte ouest.
Bienvenue dans l'Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Nicolas.
Bonjour Thierry, bonjour à tous.
Et à la une ce matin, l'actualité sur le territoire.
Oui, et cette journée de forte tension et de violence hier à Thiot. Les forces de l'ordre ont subi des agressions d'une extrême intensité. Un émeutier a été tué et un autre grièvement blessé. Hier soir, dans un communiqué, le procureur de la République est revenu sur le déroulement des faits, Jean-François Bodin.
Tôt, hier matin, les gendarmes ont entrepris de dégager les axes routiers aux abords de la commune de Thiot pour enlever quelques barrages résiduels sur les routes. Vers 6 heures, ils ont constaté qu'une vingtaine d'émeutiers avaient entravé la RP4 en plaçant un engin de chantier sur la route. Les forces de l'ordre sont intervenues pour dégager la chaussée et retirer l'engin lorsqu'ils ont été caillassés. Un gendarme a été blessé au visage et l'un des émeutiers a été interpellé et placé en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. Un peu plus tard, les émeutiers sont revenus à la charge, mais cette fois-ci, ils ne se sont pas contentés de jeter des pierres, ils ont lancé des cocktails Molotov et tiré sur les gendarmes avec des armes à feu. Pour faire face à cette agression particulièrement violente, les gendarmes ont d'abord utilisé des grenades lacrymogènes, mais les tirs par arme à feu ont redoublé contre les forces de l'ordre qui ont fait usage de leur arme de service. Un émeutier a été touché au cou, son pronostic vital était toujours engagé hier soir. 10 minutes plus tard, vers 6h40, alors que les assaillants continuaient de tirer, un émeutier a été touché à la tête par un tir de riposte. Cet homme de 43 ans, habitant de Thiot, est décédé lors de son transport vers le CHT. Après ces violentes agressions, les échauffourées se sont prolongées toute la journée.
Et le procureur a également indiqué que le parquet avait ouvert 3 enquêtes.
La première enquête confiée à la brigade de gendarmerie de La Foix concerne l'homme blessé au cou au début des affrontements d'hier et qui est toujours en garde à vue. Pour les 2 autres enquêtes, le parquet a saisi l'inspection générale de la gendarmerie pour savoir dans quelles conditions les gendarmes ont fait usage de leurs armes. Il s'agit de mener en toute objectivité, indique le procureur de la République, les investigations sur les circonstances de l'usage des armes par les forces de l'ordre, ce qui doit permettre au parquet d'apprécier si cet usage constitue ou non une riposte légitime et proportionnée à l'attaque. Le procureur ajoute que les gendarmes étaient engagés pour libérer les voies de circulation illégalement entravées dans l'objectif impératif de préserver les libertés publiques pour l'ensemble des Calédoniens, dont la première est celle de circuler librement. À ce stade, conclut Yves Dupas, ces enquêtes reflètent une nouvelle fois l'hostilité extrême de certains individus lourdement armés, visant à affronter de manière délibérée les gendarmes dans l'exercice de leur mission légitime et à porter atteinte à leur intégrité physique.
Et ces faits d'une extrême violence hier matin ont été accompagnés par de nombreuses exactions. Une fois encore, ce sont les installations de la SLN qui ont été ciblées. Des destructions qui ont lourdement touché les installations et les outils de travail et qui menacent directement d'ailleurs le devenir professionnel des salariés, des sous-traitants et de toutes les activités induites autour de la mine sur Thiot et Bouloupari, indique le directeur général de la SLN, Guillaume Curec. Il ajoute que plus de 2000 personnes sont concernées et risquent d'être impactées directement par ces exactions menées par un petit groupe de personnes. Et puis la journée a été chaotique hier aussi à Poya, où une centaine de jeunes a caillassé des gendarmes. 2 membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessés. La gendarmerie est d'ailleurs engagée depuis plusieurs jours maintenant dans le déblaiement de cabanes installées sur le bord de la route. Hier soir, vers 20h, 2 automobilistes ont encore été victimes d'attaques à la barre à mine. Et puis on nous a signalé des barrages et le feu sur la route également au niveau de la station Shell à Auteuil. Il est donc conseillé de passer par Yaoué alors que les gendarmes arrivent sur place. Cette nuit déjà, ils sont intervenus au niveau d'Auteuil et des Palmiers.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu, il est 6h35.
Et c'était hier un jour férié pour le 15 août, fête catholique qui célèbre l'Assomption de la Vierge Marie, Isabelle Pelletier.
C'est aussi la fête patronale du diocèse de Nouméa, mais cette année, en raison de la situation insurrectionnelle, le traditionnel pèlerinage de la Conception n'a pas pu être organisé par le diocèse. Les fidèles ont célébré la montée au ciel corps et âme de la Vierge Marie dans leurs paroisses respectives et ils étaient présents en nombre à la cathédrale, comme l'a souligné à la sortie de la messe l'archevêque de Nouméa, Mgr Calvet.
Les conditions ne sont pas celles que l'on souhaite habituellement, mais néanmoins, les fidèles étaient là, dans chacune des paroisses, particulièrement à la cathédrale. C'est quelque chose qui me paraît normal, parce que si nous avions eu la possibilité de nous rassembler à la Conception, comme d'habitude, on aurait été plusieurs milliers. Donc là, c'était un petit peu moins, mais la cathédrale débordait. Quand une église déborde, c'est une bonne chose.
Quand une église déborde, c'est une bonne chose, c'est ce que déclare l'archevêque de Nouméa, alors que plusieurs églises calédoniennes ont été la cible des émeutiers, des violences que les fidèles avaient forcément en tête lors de la célébration de l'Assomption. On en a beaucoup prié pour la paix, à l'image de ces jeunes qui ont assuré l'animation de la journée de prière et de recueillement qui était organisée à l'église Saint-Jean-Baptiste de la Vallée des Colons à Nouméa.
D'habitude, on se retrouve tous à la Conception, on fait tous un pèlerinage de notre côté pour aller vers la maison de Marie. Et là, je voulais quand même être présente pour voir comment ça allait se dérouler parce que c'est une fête quand même très importante pour nous. Nous, les jeunes, on nous a proposé de venir et de voir qu'il y a quand même des personnes qui viennent et qui prient et qui n'oublient pas la prière. C'est touchant et c'est que magnifique en fait.
Ça m'a fait du bien parce que le matin, on a eu la messe pour fêter l'Assomption. Ensuite, on a animé l'adoration du Saint-Sacrement. Après, on a eu le rosaire, le chapelet de la Divine Miséricorde. On a terminé avec l'ensemble du renouveau charismatique. On a prié pour la paix dans le monde, surtout ici en Nouvelle-Calédonie, avec tout ce qui s'est passé depuis le 13 mai.
Et s'il n'y avait pas de pèlerinage à la Conception, une messe y a été célébrée hier matin et là aussi, les fidèles ont été extrêmement nombreux. La petite église ne pouvait pas les recevoir tous et beaucoup, ont dû rester sur le parvis.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et c'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Voici notre question du jour. Au lendemain de l'Assomption, pensez-vous que la religion peut avoir un rôle dans la résolution de la crise que traverse la Nouvelle-Calédonie? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse par SMS au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à notre question du jour. En bref, le Salon des artisans calédoniens a été inauguré hier matin à la Maison des artisans. Le monde institutionnel et économique a largement répondu présent pour venir soutenir ce pan de l'économie, lourdement pénalisé évidemment par les émeutes. Jusqu'à dimanche, 80 stands sont rassemblés à la Maison des artisans en ce long week-end. L'opportunité pour les visiteurs de trouver de l'artisanat d'art, mais aussi de quoi s'adonner au jardinage, voire même de lancer des travaux chez eux. Et pour les artisans, de vendre leurs produits au public durant 4 jours. Un public venu nombreux dès hier matin. Le Salon des artisans est donc ouvert jusqu'à samedi de 8h30 à 16h et puis dimanche de 8h30 à midi. Et c'est donc à la Maison des artisans à Nouville. L'État est là et il continuera d'accompagner la Nouvelle-Calédonie. C'est le message relayé auprès des acteurs économiques et politiques par Claire Durieux, conseillère du ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire. Elle vient de passer une semaine sur le territoire. Depuis le début de la crise, elle a été chargée par Bercy du dossier calédonien et de la mise en place des dispositifs de soutien à l'économie calédonienne. Avant son départ, elle nous a donc accordé un entretien pour faire le point sur ses rencontres sur le terrain, mais aussi sur l'évolution des dispositifs de soutien de l'État. Un entretien qui sera donc diffusé ce matin à 7h30. Et puis un autre rendez-vous sur notre antenne, c'est le président de la province des îles, Jacques Lallier, qui sera ce midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les conséquences dans sa province et sur la manière dont il envisage l'avenir. Jacques Lallier, invité de Transparence, est donc à suivre à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. En attendant, il est 6h40, vous écoutez Radio Rythme Bleu après la publicité, l'actualité en métropole et Emmanuel Macron qui commémore les 80 ans du débarquement de Provence.
Toute l'info en trois lettres, RRB. Venez découvrir le premier salon des artisans calédoniens à la Maison des artisans de Nouville du jeudi 15 au dimanche 18 août. Plus de 80 exposants vous attendent. Sculptures, maroquineries, bijoux, mais aussi mobilier, décorations, plantes vertes. N'oubliez pas de jouer au grand jeu Bluescope, partenaire officiel du salon, pour gagner un lot de jardinières d'une valeur de 50 700 francs TTC. Le premier salon des artisans calédoniens, c'est du 15 au 18 août à la Maison des artisans de Nouville et l'entrée est gratuite.
La Fiat Panda hybride à 1 695 000 francs. Ou peut-être le pick-up Renault Rock à 2 295 000 francs. Et pourquoi pas le SUV Ford Kuga à 2 995 000 francs.
En ce moment, dans tout le groupe Blondeau, difficile de choisir tellement les offres sont incroyables sur toutes les marques du groupe. Offre valable uniquement sur les véhicules signalés. Possibilité de financement et d'assurance tout risque avec nos partenaires. Plus d'infos sur les pages Facebook du groupe Blondeau.
À ces prix-là, pas d'hésitation. On y va. Groupe Blondeau, depuis 50 ans à vos côtés.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB mobilisé, nous le devons à votre confiance et à votre fidélité. Toutes les équipes de Radio Rythme Bleu sont engagées à vos côtés pour vous informer, vous accompagner et vous aider dans ces temps difficiles.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB Matin, le journal, Nicolas Legrand.
Emmanuel Macron était donc hier soir à Saint-Raphaël. Le président de la République a pris la parole depuis la nécropole de Boulouris. C'était pour la commémoration des 80 ans du débarquement de Provence. Le chef de l'État a souligné la reconnaissance indéfectible de la France aux soldats alliés qui ont débarqué dans le Var en 1944.
Tous ont accompli ce jour-là et les suivants une œuvre dont ils connaissent et dont ils connaissaient alors les immenses périls. Et pourtant, ils l'ont fait. Avec cette audace bravache et avec cette force irrécusable, leur rendre hommage aujourd'hui, c'est saluer ces hommes qui sont nos héros. Parce qu'ils se sont hissés au-delà des falaises du Cap Nègre, au-delà de la peur et de l'impossible, au-delà de la souffrance et des risques. Ils l'ont fait.
Emmanuel Macron depuis la nécropole de Saint-Raphaël. Une partie des événements dans le Var a dû être annulée en raison des risques d'orage, notamment la reconstitution du débarquement à Toulon. Emmanuel Macron ne déjeunera pas non plus en mer à bord du porte-hélicoptère d'Ixmude avec les chefs d'État, comme c'était prévu initialement. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, s'est rendu, lui, hier sur la base aérienne de Saint-Dizier, en Haute-Marne, celle à laquelle étaient rattachés les deux pilotes décédés hier dans une collision entre deux rafales. Le pilote du deuxième avion a pu, lui, s'éjecter à temps. Il est sain et sauf. On ne connaît pas encore les causes de cet accident, mais pour Jean-Paul Paloméros, ancien chef d'État et de l'armée de l'air et pilote de chasse, le problème technique n'est pas l'hypothèse la plus probable.
On ne peut pas exclure un problème technique, mais c'est pas le plus vraisemblable. On aurait eu un lancement d'un message d'alerte. Donc, ce qui a pu se passer, c'est qu'il y a eu peut-être, l'hypothèse, une perte de visuel. Quand on est amené à manœuvrer, ça va très vite. Évidemment, il faut être très attentif. C'est extrêmement rare, fort heureusement, mais le risque zéro n'existe pas. Et c'est là que c'est très important qu'on restitue les trajectoires à l'aide des enregistreurs de vol, sont très précis. Qui plus est, l'armée de l'air aura le témoignage du pilote rescapé. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'on ait un débriefing complet et très précis de ce qui s'est passé. C'est l'affaire de quelques semaines.
Jean-Paul Paloméros, donc ancien pilote de chasse.
RRB 6h43.
Et enfin, une bonne nouvelle pour la recherche française. Le classement de Shanghai qui hiérarchise les 1000 meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde a été publié. Et le CRU 2024 est particulièrement favorable à la France. L'université de Paris-Saclay brille par son excellence. Elle gagne 3 places depuis l'an dernier pour se retrouver à la 12e position. Il s'agit là du meilleur résultat pour un établissement français. De quoi rendre fier Camille Galap, le président de l'université Paris-Saclay.
Les excellents résultats que nous avons obtenus sont vraiment le fruit de cette qualité de recherche de l'ensemble de cette communauté de Saclay. Il y a 6 critères principaux qui sont utilisés dans le cadre du classement de Shanghai. Par exemple, sur les chercheurs les plus cités au niveau international, nous avons progressé de 22 à 26 chercheurs. Donc, le simple fait d'avoir 4 chercheurs supplémentaires qui sont très fortement cités, ça fait gagner des points dans le cadre du classement de Shanghai. Ce résultat renforce notre attractivité à la fois au niveau national et international, puis nous permet aussi d'avoir plus de visibilité vis-à-vis du monde socio-économique pour pouvoir travailler sur des projets de recherche et d'innovation.
Et 25 établissements français figurent donc dans les 1000 premières places, dont 18 dans le top 500. Les universités américaines, Harvard en tête, hein, occupent une fois de plus le sommet du classement. Harvard qui arrive à la première place pour la 22e année consécutive tout de même. Il est 6h45, vous écoutez RRB, l'actualité internationale. Ce sera après la pause avec notamment des négociations en cours à Doha concernant le conflit entre Israël et le Hamas.
RRB, 6h08, Nicolas Legrand.
Ah, ces assurances. J'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple. Fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda.
Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Si vous êtes prêt à faire plaisir à toute votre famille sur trois générations, alors vous êtes prêt à profiter des journées plaisir Gémeaux. Jusqu'au 23 août, moins 30% pour trois articles achetés, moins 40% pour quatre et jusqu'à moins 50% pour l'achat de cinq articles ou plus.
Gémeaux, taillé pour la vie de famille.
Offre valable sur une sélection d'articles textiles signalés par une étiquette rouge, voire conditions en magasin.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Excellent début de journée. La suite de votre journal, on retrouve Nicolas Legrand.
Plus de 40 000 morts à Gaza depuis le début du conflit le 7 octobre dernier, selon les derniers chiffres difficilement vérifiables du Hamas. Après 10 mois de guerre et de bombardements d'Israël presque ininterrompus, des discussions ont débuté à Doha, au Qatar. Les médiateurs espèrent ainsi trouver un accord et éviter un possible embrasement dans la région. Il faut dire que la menace de l'Iran plane toujours depuis l'élimination par Israël il y a deux semaines du chef politique du Hamas, Ismaël Haniyeh. Alors que sait-on de ces négociations ? L'hypothèse d'un cessez-le-feu est-elle vraiment envisageable ? Les précisions de Geoffrey Branger pour Europe 1.
Cette réunion a commencé vers 14h cet après-midi. Sont présents les médiateurs habituels, le Qatar, l'Égypte ou encore les États-Unis. De son côté, Israël a envoyé ses responsables des renseignements. En revanche, le Hamas ne participe pas à ces échanges. Le mouvement islamiste ne souhaite pas de nouveaux pourparlers. Il veut s'en tenir au plan proposé par Joe Biden en juin dernier. C'est d'ailleurs de ce plan dont il est question depuis cet après-midi. Une trêve de 6 semaines qui permettrait la libération de certains otages en échange de prisonniers palestiniens. Et dans un second temps, si tout se passe comme prévu, un cessez-le-feu définitif avec un nouveau partage du territoire. Les chances d'aboutir à un accord sont très incertaines. Il y a déjà eu beaucoup de négociations dans le passé et toutes se sont soldées par des échecs. Mais John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, évoquait plus tôt dans la journée un début prometteur des discussions qui vont se poursuivre demain. Ce qui est sûr, c'est que pour de nombreux pays, il y a urgence à trouver une solution afin d'éviter une escalade des tensions dans la région.
Geoffrey Branger pour Europe 1. En bref, Paul Watson restera en prison pour 3 semaines supplémentaires. L'activiste et fondateur de Sea Shepherd était entendu par la cour d'appel du Groenland après son arrestation le 21 juillet dernier. L'audience a duré 2h30 et était exclusivement en danois, une langue que Paul Watson ne comprend pas. Son maintien en détention vise à éviter qu'il ne s'échappe avant la décision finale concernant son extradition. Une demande formulée par le Japon depuis des années. Le pays du soleil levant l'accuse d'être co-responsable de dommages et blessures à bord d'un navire baleinier. C'était en 2010. Il risque une peine de 15 ans d'emprisonnement. Une pétition demandant la libération de Paul Watson a déjà recueilli plus de 60 000 signatures. De son côté, la présidence française a demandé aux autorités danoises de ne pas l'extrader. Et puis l'OMS a réuni son comité d'urgence sur le Mpox, le nouveau nom donné à la variole du singe. L'objectif, tenter de déterminer s'il faut ou non, face à la résurgence de cas en Afrique, décréter le plus haut degré d'alerte sanitaire au niveau international. Un niveau déjà fixé par l'Agence de santé de l'Union africaine. Le nombre de cas en effet explosé en 2 ans dans plusieurs pays africains. Yasmine Akatou pour Europe 1.
Depuis 2022, plus de 38 000 cas de variole ont été recensés pour près de 1 500 décès. Et c'est la République démocratique du Congo qui inquiète le plus les autorités africaines. 14 000 cas y ont été enregistrés. L'explosion des infections est due à l'apparition d'une nouvelle souche de Mpox en septembre dernier, plus contagieuse, plus sévère et plus mortelle. Clade 1B, c'est le nom de ce nouveau variant. La particularité de cette souche, c'est qu'elle atteint particulièrement les enfants. Il représente 60% des cas. Cela pourrait s'expliquer par le fait que clade 1B se transmet plus facilement par la sueur ou la salive. Les contaminations avec les précédentes souches avaient plutôt lieu après des rapports sexuels. Pour tenter de limiter la propagation du virus, l'OMS appelle tous les fabricants de vaccins contre la variole à soumettre dès que possible les données d'efficacité de leur sérum non commercialisé. Des autorisations exceptionnelles pourraient être délivrées pour vacciner au plus vite la population.
Yasmine Akatou, spécialiste santé d'Europe 1, a noté qu'un cas du nouveau variant de Mpox vient d'être recensé en Suède, une première hors du continent africain. La personne touchée a été infectée lors d'un séjour dans une région d'Afrique où sévit une importante épidémie de Mpox de sous-type clade 1. C'est ce qu'a précisé jeudi l'agence suédoise de santé publique.
Vous êtes dans Info Matin, il est 6h50.
Et enfin, un concert sous haute surveillance. La star américaine Taylor Swift relance sa tournée à Londres après l'annulation des dates à Vienne en raison d'un projet d'attentat déjoué. 90 000 spectateurs sont attendus pour cette date anglaise à risque et qui sera également sûrement chargée d'émotions. Marie Jiquel pour Europe 1.
Un concert plein d'émotions et ce sera aussi peut-être l'occasion pour Taylor Swift de s'exprimer sur les 170 000 billets annulés à Vienne après la découverte de ce projet d'attentat, de dire un mot aux fans viennois privés de concert, ainsi qu'une pensée, peut-être une minute de silence pour les trois fillettes assassinées en plein cours de danse dédié à la star il y a quelques jours en Angleterre. Alors ce soir au stade de Wembley, où vous le disiez, 90 000 spectateurs sont attendus, la sécurité est renforcée à l'entrée et aux abords du stade. Et les rassemblements des fans sans billets sont interdits près du concert. Un concert en train d'émotion particulier car certains fans anglais ont donné leur place aux Autrichiens déçus de ne pas avoir pu voir en live la chanteuse. Taylor Swift qui donnera donc 5 concerts dans la capitale britannique avant de repartir au Canada pour poursuivre cette tournée Eras. La première de l'histoire a écoulé plus $1 milliard de billets.
Marie Jiquel pour Europe 1. Il est 6h52, vous écoutez Radio Rythme Bleu. On va marquer une dernière pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive en compagnie de Léo Fichou. On parlera notamment du Tour de France cyclisme femmes et puis également du tennis avec le tournoi, le Masters 1000 de Cincinnati.
RRB, pour être au cœur de l'actualité. Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00. RIAS 170 052. ORIAS 13 103.
Votre magasin La Halle continue son déstockage et c'est l'occasion de faire le plein de bonnes affaires avant sa fermeture. Jusqu'au 17 août, profitez de moins 40% sur tout le magasin. Oui, vous avez bien entendu, moins 40% sur tout. Alors venez vite nous rendre visite. La Halle Galerie Quartier Alma, centre-ville de Nouméa. Ouvert du lundi au samedi de 8h à 17h.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Info Matin avec le sport, on retrouve Nicolas Legrand.
Et la suite du Tour de France Femmes avec Léo Fichou, du changement au classement général.
La porteuse du maillot jaune et favorite du Tour, Demi Vollering, a été prise dans une grosse chute à 6 km de l'arrivée à Amnéville. Touchée aux fessiers et à la hanche, la Hollandaise a finalement réussi à repartir et à limiter la casse. Mais après cette cinquième étape, c'est la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui s'empare du maillot jaune. Les Françaises, elles, Cédrine Kerbol et Juliette Labou sont 4e et 5e à 47 et 56 secondes de la leader. Ce soir, 6e étape entre Remiremont et Morteau. 160 km accidentés avec un col dès les premiers kilomètres avant d'enchaîner 4 cols en seconde partie d'étape.
Du tennis aux États-Unis avec la suite du deuxième tour du Masters 1000 de Cincinnati.
Et sans grande surprise, il n'y a déjà plus de Françaises dans le tableau. La dernière en lice, Varvara Gracheva, s'est inclinée en 3-7 contre la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. Chez les hommes, Arthur Fils affronte en ce moment l'américaine Brandon Nakashima. Il est mené 1-7-0 mais domine le second set. Un peu plus tard dans la matinée, Gaël Monfils sera opposé à Carlos Alcaraz, l'Espagnol finaliste l'an passé. Et en tennis, toujours un mot sur l'Open du Resaving qui a lieu en ce moment sur le territoire. Côté tableau féminin, Lince Moto Nekiariai a conservé son titre. Elle a battu en finale Mélodie Dahl en 2-7, 6-2, 6-4.
Le sport côté calédonien, justement, avec des nageurs du territoire qui seront au rendez-vous la semaine prochaine au championnat Open de Nouvelle-Zélande, Léo.
Depuis lundi, les 9 nageurs, 7 de Dumbéa et 2 du Cercle des nageurs calédoniens, participent à un stage organisé par la Ligue. Au programme, pas moins de 16 séances. La délégation s'est envolée pour la Nouvelle-Zélande. Ça y est, la compétition commence mardi pour Loan Kayuela et Inès Kieffel, tous deux nageurs au CNC. Les détails de leur entraîneur Thibaut Marie.
Alors Loan, il a un programme assez chargé, 50, 100, 200, 400 crawls, 50, 100, 200 pap et 204 nages, si je dis pas de bêtises. Après, on va voir peut-être pour ajuster, parce que ça fait un programme lourd quand même en une semaine. Et Inès, 50-100 crawl et 50-100-200 brasses. On est plus sur des objectifs quand même chronométriques que d'aller chercher des médailles, etc. Parce que c'est de l'open, donc eux, ils sont encore jeunes. Ça va être compliqué d'aller se hisser en finale, sachant que nous, on est des étrangers. C'est 2 étrangers par finale. Il y a l'équipe jeune australienne qui seront là-bas. Donc ça va faire du beau monde, ça va être intéressant à voir et espérer aller chercher quelques finales si c'est possible.
pour Thibaut Marie, donc l'entraîneur au CNC. Cette compétition est avant tout une prise d'expérience pour les jeunes nageurs calédoniens avant les mini-jeux du Pacifique qui auront lieu en 2025 et puis à terme les Jeux du Pacifique prévus en 2027 à Tahiti.
Et puis on termine, Léo Fichou, avec un mot de golf hein, sur le territoire avec le challenge des jeunes cagous, un tournoi qui a débuté mardi par les qualifications et qui se termine donc aujourd'hui avec les phases finales.
Le golf de Tina organise effectivement cette compétition qui regroupe des jeunes golfeurs qui ont entre 6 et 21 ans. Les deux premières journées étaient consacrées aux qualifications. Hier, les 16 meilleurs de chaque catégorie ont disputé les 8e et les quarts de finale. Aujourd'hui, dès 8h, place aux demi-finales. Julien Fauré, représentant jeune à la Ligue de Golf de Nouvelle-Calédonie.
C'est la dernière journée avec le tableau final qui va nous déterminer la première jusqu'à la 8e place. Donc, nous avons des matchs en demi-finale, que ce soit chez les confirmés ou chez les débutants. Donc ça va être entre guillemets une fête sur ce dernier jour où tout le monde jouera pour quelque chose sur ce dernier jour. Nous avons Jules Guépy qui est le plus âgé, qui va avoir 17 ans par exemple, et nous avons dans la même catégorie un garçon qui s'appelle Hugo Delamarre qui a 13 ans. Chez les petits, alors c'est un peu plus condensé, on a des catégories d'âge qui vont se trouver entre 9, 10 et 11 ans essentiellement, comme on est vraiment sur une catégorie débutante. Ça reste dans l'ensemble très jeune et c'est plutôt encourageant pour le golf calédonien, ce qui prouve qu'il y a une jeune génération qui arrive.
Les finales du challenge des jeunes cagous au golf de Tina débutants et confirmés auront lieu en début d'après-midi.
Merci beaucoup Léo Fichou, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménagé.
Et la météo, c'est avec vous Thierry.
Oui Nicolas, ce matin, grand soleil sur la façade ouest et la pointe nord. Sur le sud de la côte est, marée, l'Ifou et l'île des Pins. Le ciel restera nuageux avec de rares ondées. Sur le nord-est, alternance entre nuages et belles éclaircies. Sur la côte ouest, des brises s'étaleront, on parle du vent bien sûr, entre 5 et 10 nœuds. Sur l'est, il sera de secteur est, il sera proche des 10 nœuds. Sur la pointe, sur les pointes nord et sud, l'île des Pins et les Loyautés, il attendra 15 à 20 nœuds. Cet après-midi, sur l'est, l'extrême sud, les nuages seront nombreux et quelques averses seront toujours possibles. Par contre, le beau temps se maintiendra sur l'ouest et la pointe nord. Sur les autres régions, alternance entre passages nuageux et éclaircies. Sur la pointe nord, les Loyautés et l'extrême sud, le vent s'orientera toujours à l'est entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il sera voisin des 10 nœuds de secteur est ou encore localement 10 à 15 nœuds de nord-est dans les vallées du nord-ouest. Les températures 25 degrés du côté de l'île des Pins et de 28 à 29 degrés sur la côte ouest.
Merci beaucoup Thierry, merci à tous d'avoir écouté ce journal. Je rappelle qu'il sera disponible en réécoute sur notre site internet le www.rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, ce sera à 7h, suivi du billet d'humeur de la rédaction signé aujourd'hui Jean-François Bodin. Puis vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46 si vous avez un avis sur l'actualité. Et on rejoint le carillon de 8h en musique.